Gloire au Seigneur. Bonsoir à tous. Encore une joie d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Nous allons voir ensemble le parcours d'un jeune homme, voir son parcours, voir ce qui s'est passé au début, pendant et à la fin de son voyage, de son périple. Voir ensemble une parabole connue que nous connaissons, je pense. Parabole, par définition, est une histoire qui permet d'illustrer une vérité spirituelle. Et Jésus parlait souvent en parabole. Nous allons voir une parabole connue, une parabole extraordinaire, une parabole importante à connaître. Cette parabole se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 11. Parabole que l'on appelle la parabole du fils perdu, du fils prodigue. Du fils, alors qu'il est question de deux fils dans cette histoire. Mais nous verrons que le premier fils. Je vous fais la lecture de ces versets. Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me revient, qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit combien d'ouvriers, chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe. » Et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. Le texte commence avec ces mots, verset 11. Il dit encore, cette parabole fait partie d'une série de deux autres paraboles. Parabole de cette histoire de cette personne, ce berger qui va perdre une brebis, d'une autre parabole de cette femme qui perd une pièce de monnaie, et enfin de cette personne qui va se perdre délibérément. Trois paraboles dans un chapitre. Cette parabole que nous avons lue parle d'un jeune homme qui va se perdre dans le monde, mais qui va décider de revenir à son bon sens, retourner par lui-même à la maison du Père. Cette parabole exprime une chose en particulier, et s'il y a une chose à retenir de cette parabole, c'est bien ça, qu'il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu, qu'il n'est pas trop tard pour revenir dans la maison du Père. Ce message est aussi un message pour ceux et celles qui sont, ma foi, retournés dans le monde, ceux et celles qui ont abandonné la course, qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu, jamais trop tard pour revenir à Dieu, même malgré le péché, malgré le découragement, malgré, même si dans ma vie il y a le désordre, qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Même s'il y a eu séparation, divorce dans ma vie, qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à la maison de Dieu. jamais trop tard, mais qu'un jour ou l'autre, la porte de la grâce se fermera, qu'il y a quand même une limite. La question que je me suis posée en préparant ce message, c'est à qui s'adresse cette parabole. Dans le verset premier, on apprend ceci, que ce sont tous les publicains et les gens de mauvaise vie qui s'approchent de Jésus, mais aussi les pharisiens et les scribes. D'un côté, il y a les gens, des pharisiens, des scribes, des hommes religieux qui connaissent la parole de Dieu, qui pensent qu'ils sont trop proches de Dieu pour venir à Jésus. Et de l'autre côté, il y a ces hommes, ces femmes, ces gens dits de mauvaise vie, des publicains pour certains, des gens infréquentables que l'on n'aime pas voir pour certains, ces publicains, des gens qui pensent qu'ils sont trop loin de Dieu pour venir jusqu'à lui. Ce qu'il faut savoir, retenir, c'est que quelle que soit la vie que tu mènes, le passé vécu jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a jamais été et ne sera jamais aussi proche de toi. Il sera là pour te pardonner, pour te permettre d'aller de l'avant, te donner la force de relever la tête pour te guérir. Et il est le seul à savoir exactement ce qu'il te faut pour avancer. Dans cette parabole, je vous propose de voir quelques traits de caractéristiques de ce fils prodigue qui est étonnant sur certaines choses. Il est, dans cette parabole, on apprend qu'il est égocentrique. Le premier mot qu'il dit au verset 12, c'est « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir ». Le fils demande l'impensable, il demande son héritage avant l'heure. Il manque aussi de discernement. À cette époque, c'est une chose impensable de demander l'héritage à son père. Son père, en plus, il est encore vivant. Une façon pour lui dire à son père que implicitement que tu ne m'intéresses plus, que vivre avec toi ne m'intéresse plus, les affaires de la famille ne m'intéressent plus, voire te voir vivant même ne m'intéresse plus, qu'en réalité je suis plus intéressé par le bien, par mon héritage, que par ta santé. Lorsque le fils prodigue dit « donne-moi la part de bien qui doit me revenir », il faut savoir que le mot « bien » dans la version originale, en grec, il y a le mot « bios », vient du mot « bios », mot qui correspond à ce à quoi la vie est assurée, aux ressources, aux biens, « bios », comme « bio » correspond à la vie. À cette époque, il n'y avait pas d'assurance vie, il n'y avait pas de compte en banque. Les gens, ce qu'ils possédaient, c'était les biens de la terre, c'était une propriété, une maison. Et en quelque sorte, le fils prodigue est en train de dire à son père de vendre ce qu'il a pour récupérer l'argent et récupérer son héritage. Il manque de discernement, il est prêt à appauvrir son père, sa famille, pour récupérer son héritage. Et puis, il est impatient, le fils, à ce moment, va manquer de patience, et il ne dit pas « est-ce que c'est possible d'avoir son héritage ?» mais exige d'avoir ce qui lui est dû. Et pourquoi ? Pourquoi ? Afin de vivre la belle vie, afin de profiter de la vie. Dans la vie, nous manquons aussi de patience, nous manquons de réflexion. Certains dans le monde sont prêts à dépenser son salaire pour jouer au jeu, pour jouer et gagner plus, en tout cas essayer de gagner plus, profiter de la vie et fermer les yeux sur certaines réalités, sur le fait qu'il y a le loyer à payer, qu'il y a des factures à payer, des charges à payer. Et je préfère dépenser mon argent pour acheter une nouvelle voiture, un nouveau téléviseur, quitte à endetter ma famille encore plus. Malgré tout, à la fin, le père va quand même répondre à la demande. Le père ne va pas contester, mais il va leur partager leur bien. Le père partage le bien aux deux fils. C'est une notion importante du christianisme. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, le libre choix, où Dieu ne s'impose pas. Chaque personne a le choix. Dieu ne s'imposera jamais dans ta vie, Personne ne peut vous imposer sa foi non plus. Une notion importante, le fait que je suis libre de choisir, libre de choisir. Chacun de nous est libre de choisir entre la vie ou la mort, entre choisir de suivre Jésus ou de le rejeter. Et le choix de Dieu est très simple, soit tu décides de le suivre ou pas. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est soit c'est oui ou soit c'est non. Il n'y a pas de peut-être, soit c'est blanc ou soit c'est noir, il n'y a pas de gris. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Personne ne vous obligera à choisir et nous pouvons vous supplier, vous accompagner dans cette décision, mais il y a une vraie décision personnelle à prendre. Et la décision ou la solution, par défaut, c'est la mort. Par défaut, c'est la mort. Il y a quand même un choix à faire. Et Jésus nous propose la vie, nous donne la vie. Fils prodigue, malgré son caractère va le pousser à faire des erreurs. Il veut vivre un rêve irréaliste. Irréaliste parce que son rêve, comme on le verra, va tourner au vinaigre, va se transformer en cauchemar. Verset 13, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il ramasse tout son argent, il part à l'aventure pour un pays éloigné, il part sans direction précise. Et il vit un rêve irréalisable, il vit sur un nuage, personne ne fait comme ça dans la vie, même pour le GPS, il faut une direction, il faut une direction, pourtant une destination, pourtant c'est la mentalité du monde, des hommes en général. Je pars pour un pays imaginaire, un pays éloigné, sans direction précise, et puis je laisse la vie décider pour moi, même si au bout du chemin il y a un ravin. Certains sont prêts à dire c'est la vie, c'est pas grave, la vie ou la mort. Un rêve qui se transformera en peu de temps en cauchemar. Partir à l'aventure sans direction. Et peut-être que tu te poses cette question, comment connaître la direction, le chemin à suivre? Cette question, une personne va se la poser, va poser à Jésus, c'est Thomas. Thomas va demander, va lui demander à un moment donné, comment connaître le chemin, comment connaître la direction? Et Jésus lui dira dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, il lui dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, que par Jésus. Jésus est le seul et l'unique chemin qui mène à la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. C'est peut-être prétentieux de le dire, mais s'il y a quelqu'un ici qui cherche une direction, qui cherche un chemin, bien alors ne cherche plus. Tu l'as déjà trouvé, tu l'as trouvé. Le chemin se trouve en Jésus. Que le chemin n'est pas seulement une route toute tracée, mais c'est une personne. La vérité n'est pas seulement un principe, mais c'est une personne. La vie n'est pas seulement un concept, mais c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus. Amen. Et deuxième défaut, deuxième erreur que ce fils va faire, il va gaspiller ses biens, on peut dire aussi gaspiller son temps. Il part pour un pays éloigné, et sans réfléchir, il dissipe son argent pour vivre dans la débauche. Il va comme un enfant gâté, sans réfléchir, gaspiller, éparpiller son bien en vivant dans la débauche. Le mot débauche vient du grec azotos, qui définit une manière dissolue, c'est vivre dans un état misérable, détestable même. On apprendra au verset 30 des informations supplémentaires sur ce qu'il a pu vivre lorsque son grand frère parle de lui à son père. Il s'exprime de cette façon, et quand ton fils, il ne parle même pas de mon frère, mon petit frère, quand ton fils, et en plus, d'une certaine façon, il est en train aussi d'accuser le père de l'avoir laissé partir, et quand ton fils verset 30, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Le veau gras. Dans la débauche, ce que ce jeune homme a vécu, c'est beaucoup de choses peut-être de la prostitution. Et c'est de cette débauche dont il est question, une vie misérable. Et vous pouvez penser ce soir que moi, je suis à côté de tout ça, je ne vis pas ce genre de débauche. La prostitution, j'y suis loin, mais le péché, c'est ça, et encore moins que ça. C'est désobéir à Dieu. Le monde vit de cette façon. Je préfère profiter de la vie, des plaisirs du monde, avec tout ce qui va avec, la débauche, les plaisirs, le sexe, etc., et continuer à vivre dans le péché. Et on ne se pose pas de questions, ou très peu de questions, que nos choix, on ne se dit pas que nos choix, les choix que nous faisons aujourd'hui, peuvent avoir des conséquences sur demain. L'apôtre Paul dit ceci aux Galates, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Si vous avez semé la corruption, le péché, tôt ou tard, vous allez récolter, moissonner aussi la corruption, et plus tard la mort. La mort. La corruption, la parole de Dieu lui donne un nom, c'est le péché. Un péché, pour certains, le péché, c'est pour des hommes religieux, le péché, c'est pour le passé, c'est pour ceux qui font la morale, pour l'histoire des religions, mais dans la parole de Dieu, le péché est encore d'actualité. Le péché, dans la parole de Dieu, a divers sens, est traduit par divers mots dans le grec. Le péché est traduit dans un temps par le mot amartia, qui signifie manquer la cible. C'est l'archer qui tire et qui rate la cible. C'est manquer le plan de Dieu pour sa vie. Le péché, c'est aussi un autre mot, parabasis. C'est avoir traversé une ligne de non-retour. C'est de penser qu'une ligne de non-retour que je ne pourrais peut-être jamais retourner, que cette pensée que j'entretiens va me pousser à trop loin, m'a poussé trop loin, que cette relation que j'entretiens, je ne pensais jamais qu'elle arriverait aussi loin. Le péché, c'est aussi anomia, c'est-à-dire enfreindre la loi de Dieu. La loi de Dieu existe et pourtant je décide de la désobéir. Le péché, c'est paraptoma, c'est être dépassé, tombé, dépassé par le péché, péché qui est présent dans ta vie et ne te permet plus d'avancer. Des choses qui nous emprisonnent, qui nous rendent dépendants esclaves du péché, de l'alcool, du tabac et bien d'autres choses. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Au travers de versets très simples, elle dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci aux Romains, chapitre 6, verset 23. « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Le salaire du péché, c'est la mort. Vivre dans le péché, c'est accepter le salaire qui va avec, c'est-à-dire la mort, mais rejeter le péché, c'est vivre, entrer dans la vie éternelle. Un don est forcément gratuit, c'est... Et ce don correspond à la vie éternelle que Dieu nous donne. Maintenant, la question, c'est une question que l'on peut se poser, c'est comment y arriver? Comment puis-je connaître cette vie, vivre le don gratuit, connaître la vie éternelle? Comment faire? Il faut connaître Jésus, il faut l'avoir rencontré. Et comment y arriver? Il y a un certain nombre d'étapes. Et la première étape, c'est passer par La repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la repentance? Avant d'y arriver, je voudrais déjà parler de ce que n'est pas la repentance. Certains pensent que la repentance, c'est pour les faibles. La repentance n'est pas pour les faibles, bien au contraire. Il faut du courage pour avouer que je suis un homme pécheur, que j'ai besoin de Dieu dans ma vie, de la grâce de Dieu. Il faut du courage pour se repentir. Et s'il y a ou s'il existe de la faiblesse, c'est pour celui qui aime vivre dans le péché et qui ne veut pas en sortir. Et puis, la repentance n'est pas seulement du regret. Le remords nous amène à regretter, pour certains, du bout des lèvres. Souvent, et sans changer d'attitude face au péché. Et finalement, on recommence la même chose le lendemain matin. Finalement, la repentance, qu'est-ce que c'est? Savez-vous ce que c'est que la repentance? Dans une certaine version de la Bible, dans la version Louis II 21, le mot repentance a été traduit par changer d'attitude. Et c'est vrai, la repentance, c'est changer d'attitude. Changer, pas comme on change de chemise, mais changer pour de vrai, et pas d'une façon artificielle ou superficielle, mais un changement profondément, un changement du cœur. Et je pense au roi David qui dira ceci alors qu'il est pris dans un péché, pris en tenaille, dans une affaire d'adultère avec la femme de son officier. Il dira ceci au psaume 51, verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Et avec cette pensée que tu peux changer d'apparence, changer de coiffure, prendre une bonne douche, changer de vêtements, changer la tapisserie, mais si ton cœur ne change pas, ça ne sert à rien. Tu peux masquer la noirceur dans ton cœur, cacher ton péché, mais tu ne pourras pas le cacher à Dieu qui, lui, regarde au cœur. Le cœur de l'homme, c'est comme le cœur de l'arbre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, c'est sa conscience. Et dans sa forme la plus simple, le mot repentance vient du mot grec métanoïa, qui y a cette idée de métamorphose. La chenille se transforme en papillon. Il y a cette idée de changer d'attitude face au péché, de ne pas hésiter à passer de l'autre bord. C'est considérer que ce que je pensais comme normal dans la vie, aux yeux de Dieu, c'est grave. C'est se détourner du péché et prendre une nouvelle direction, celle de la sanctification. Le fils prodigue va comprendre ces choses avec douleur, puisqu'il va traverser par des épreuves. Verset 14, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. C'est souvent dans le désert, dans les moments de difficulté, que l'homme va se poser des questions. Face aux épreuves, il se questionne sur son incapacité à résoudre ses problèmes. Face à la maladie, il se questionne, il doute de la fragilité de sa santé. Face à la mort, il se questionne sur la fin de la vie, sur son devenir. C'est à ce moment que le fils prodigue se questionne. Et comme Salomon va se poser aussi ce genre de questions, Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. » Il y a des moments dans la vie où il faut se remettre en cause, où il faut se questionner, se poser les bonnes questions, et où des questions où j'en suis avec Jésus. Est-ce que le chemin que je suis, que j'ai emprunté dans la vie, est le bon chemin, est la bonne direction? Dans le désert, Dieu m'amène à réfléchir. Et alors, j'ai noté ce témoignage dans un journal, 20 minutes, pour ceux qui connaissent. Je vous lis ce témoignage, extrait d'un article. Il est écrit ceci. Le 13 janvier 1987, un journaliste, Roger Hawk, alors qu'il revient d'une interview, il est enlevé en pleine lumière en sortant de son immeuble en plein Beyrouth Ouest. Il sera l'otage du Hezbollah libanais durant 11 mois et demi. Et il va lui arriver des choses, puisque pendant 11 mois et demi, il sera accompagné d'une Bible de poche en anglais. Il déclare ceci au journaliste. « La Bible sera finalement nécessaire pour que je prenne conscience de Dieu et de son existence. » Au travers des épreuves, au travers de difficultés, passer par le désert lui a fait comprendre de l'existence de Dieu. Passer par le désert, passer par des épreuves, nous font prendre conscience que sans Dieu, nous ne sommes pas grand-chose. Le fils prodigue commence à se poser des questions, et la seule solution qu'il a, c'est une solution humaine, verset 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier, de sous-travail, même garder des pourceaux. Mais comprends, sa situation est si désespérée, si basse, que la seule chose qu'il a, c'est garder des pourceaux. Et même, il se dit ceci, il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. On se rassasie de choses que l'on aime, on se rassasie de bonne nourriture, mais alors de la nourriture des pourceaux, j'en suis pas sûr. La situation du fils prodigue s'est dégradée avec le temps. Dans le contexte de ce passage, on comprend que ce fils prodigue est un juif qui a depuis sa jeunesse, on lui a appris à certaines choses, certaines valeurs, qui a vécu avec la religion de ses pères. Et pourtant, c'est la seule chose qu'il aspire à manger. En face de Jésus, il y a des juifs qui, eux aussi, ont appris qu'il ne faut pas toucher à ces animaux impurs. Et la leçon est que pour le Seigneur est que si tu continues à te mettre Dieu à dos, vivre dans le péché, à vivre dans la débauche, c'est la direction que tu risques de prendre. Vouloir convoiter la nourriture des pourceaux. Et cette pensée que tu ne pourras pas imaginer la souffrance que tu risques d'éprouver, la finalité sera que tu vas vouloir espérer toi aussi manger la nourriture de ces animaux et souhaiter, et même si on a l'impression que dans le monde que tout va bien, que le péché, que vivre dans le péché n'est pas si mal que ça, mais à la fin, la finalité, elle est souvent tragique, et être amené à espérer la nourriture des pourceaux. Et à un moment donné, au verset 17, il est dit ceci, il va se réveiller, il va se poser les bonnes questions, l'histoire se termine bien. Il est dit ceci au verset 17, « Étant rentré en lui-même, il se dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. » À ce moment, il réfléchit et se pose une question. Enfin, il se dit ceci, « Étant rentré en lui-même, une façon de se dire, c'en est assez, je n'en peux plus de cette vie, c'est trop dur, trop douloureux pour moi. » Et peut-être que toi aussi, ici présent, tu te dis la même chose, c'en est assez que la tempête que je traverse en ce moment, les souffrances, c'en est assez, que le péché que je vis, c'en est assez, que ces douleurs que je traîne, c'en est assez, que malgré les efforts, que c'en est assez, que je veux vivre autre chose. Il va réfléchir, et verset 18, Il va décider, prendre la bonne décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se fait un plan, un projet. Je vais retourner chez mon père. Je vais lui parler. Je vais le supplier de me reprendre avec lui. Il se dit ces mots. « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Il comprend qu'il a désobéi à Dieu. Peut-être que s'est-il rappelé ce commandement « Honore ton père et ta mère ». Il désobéit à Dieu et en plus, il blesse le cœur de son père. « Maintenant, je suis plus digne d'être appelé ton fils. » « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » C'est de cette façon que le diable s'y prend souvent pour nous décourager. C'est la culpabilité, c'est cette idée que malgré le péché que tu as, que tu ne pourras plus t'en sortir seul, malgré tes prières, tu continues pourtant à transgresser la loi de Dieu. Mais ce que le Fils va comprendre, c'est que malgré tout, même si je suis au fond du trou, c'est maintenant ou jamais de revenir dans la maison de Dieu. Besoin de Dieu pour me sortir de cette situation, car de moi-même, je ne pourrais jamais y arriver seul. Dans le cœur de ce jeune homme, il y a cette résolution de changer pour de vrai, une vraie repentance, que maintenant je ne peux plus vivre cette vie vivre dans ce péché, que ma vie est une catastrophe, qu'il me faut changer, c'est maintenant ou jamais pour changer. Verset 20, « Et il se leva, et il alla vers son père. » Il y a des moments dans la vie où il faut arrêter de réfléchir, où il faut agir. Il se dit « Je vais demander pardon, je vais me repentir, maintenant il est temps de vivre ce que je pense. » Il ne dit pas « Je vais attendre un peu, je vais attendre que les choses se calment un peu, ou je verrai bien demain, je vais chercher un travail, puis j'y retournerai demain. » Non, mais n'attends pas demain, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, de celui qui frappe à la porte de ton cœur, mais aujourd'hui, pas hier, ni demain, aujourd'hui, si vous entendez la voix, sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit Hébreux chapitre 3, verset 15. Verset 20, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, il y a urgence pour venir à Dieu, se jeter à son cou et l'embrassa. Avec cette pensée que si tu viens à Jésus, si tu viens à Dieu, lui viendra à toi. En conclusion, conclure avec ce verset, verset 22, « Mais le Père dit à ses serviteurs, alors qu'il mérite, lorsque le Fils revient à la maison, alors qu'il mérite, c'est vrai, une bonne correction, qu'il mérite d'être repris, son Père, lui, va lui pardonner et même appelle ses serviteurs pour se réjouir. » Verset 24, « Car mon Fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On sait très bien que le Fils n'était pas mort physiquement, mais qu'il était mort spirituellement, comme le monde. Beaucoup vivent de cette façon, vivent dans un état de mort spirituelle. Maintenant, Jésus-Christ, il retrouve la vie. Vous avez remarqué qu'ils vont se réjouir dans les trois paraboles et les questions de réjouissance. Lorsque le berger retrouve sa brebis perdue, il la prend, il la met sur son épaule et il se réjouit avec ses amis, ses voisins. Lorsque cette femme retrouve cette pièce perdue, elle appelle aussi ses amis pour se réjouir. Lorsque le père retrouve son fils, il appelle ses serviteurs pour tuer le veau gras et se réjouir avec les autres. L'Église est amenée à se réjouir lorsqu'un fils prodigue, un fils perdu, retourne à la maison du Père. L'Église est amenée à se réjouir. Il y a, c'est vrai, du courage. Il faut du courage pour revenir dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Et cette pensée qu'il n'est pas trop tard, jamais trop tard, pour revenir jusqu'à Dieu. Pas trop tard pour revenir dans la maison de Dieu, malgré des choses que chacun traverse en ce moment, ou ont traversé, malgré nos épreuves, qu'il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Je vais conclure par prier. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier, Seigneur, pour ta parole. C'est vrai, ta parole est la vérité. Et Seigneur Jésus, je voudrais, Seigneur, que tu puisses nous aider à aller de l'avant. Seigneur, que s'il y a des choses encore dans cette vie qui nous retiennent, que tu puisses nous le montrer, afin que nous puissions nous en débarrasser. Mais Seigneur Jésus, comme ce fils prodigue, si dans le passé nous avons pris un chemin différent, si nous avons pris des chemins différents, Seigneur, que tu puisses nous donner le courage de revenir jusqu'à toi, que tu puisses nous donner l'occasion de revenir jusqu'à toi. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre les oreilles de notre cœur, afin que nous puissions entendre ta voix, que nous puissions entendre ces mots qui fera changer les circonstances, qui nous aidera à revenir, et que nous puissions frapper à la porte de ta maison, de ton cœur, et que nous puissions retrouver cette communion que nous avons perdue, Seigneur. Que tu puisses bénir chacun de nous et que nous puissions repartir avec la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, qu'un jour ou l'autre, nous te verrons tel que tu es. Qu'un jour ou l'autre, nous te verrons, nos yeux vont s'ouvrir et nous te verrons combien tu as été à nos côtés dans ces épreuves, dans la tempête, combien tu as été présent, Seigneur. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.